Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans la FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. La semaine dernière, Martin s'est fait plaisir. Dès le matin, il était heureux comme un pape, heureux de son méfait à venir. Il avait envie de me saquer, ce qu'il a fait dans une séquence qui ne restera pas dans la postérité de cette émission. Bah oui, il a passé quelques jours à fouiller les archives de cette émission pour me mettre en porte-à-faux avec vous, public, et montrer que je n'étais pas infaillible, ce dont je ne doutais pas. De retour chez moi, et après une longue nuit de réflexion, je me suis dit « Bon Maxime, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je m'abaisse à une telle infamie ? Vais-je passer mes nuits au volant, vers le bureau pour couvrir les Jeux Olympiques, à réécouter plein d'émissions pour traquer des séquences où Martin a déraillé et mis en péril la crédibilité d'Eurosport ? Vais-je vraiment le faire ? Non, je peux pas faire ça, ce serait dur et les gens se diraient que je suis rancunier, c'est pas très cool. J'ai longuement réfléchi, hésité, sous-pesé le pour et le contre, et puis j'ai renoncé à être sympa. Et puis je me suis fait plaisir, enfin façon de parler, car moi aussi, j'ai dû me fader toutes ces anciennes émissions pour trouver toutes ces conneries. Et finalement, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que Martin était un analyste de qualité, modéré dans ses jugements, régulièrement, mais pas tout le temps. La preuve, conscient qu'une saison et une émission se construisent, j'ai voulu respecter une forme de chronologie pour analyser sa saison 2020-2021 au micro. Alors la première salve, dès le début, on touche au sublime, octobre 2020, entrée, plat, dessert, salade, tomate, oignon. Pour lui, c'est clair, tous les clubs français vont passer le premier tour de la Ligue des Champions. Le PSG, évidemment, mais Marseille et Rennes aussi.
Marseille, alors ça se jouera, a priori, entre Marseille et Porto. L'Olympiakos, c'est un peu en dessous. Porto, ils ont perdu Danilo Pereira et Telles, donc leurs deux meilleurs joueurs cet été, déjà. Tu as perdu tes deux meilleurs joueurs, tu les remplaces. Tu vas chercher des mecs de 25 ans dans des clubs qui sont un peu de seconde zone au Portugal ou ailleurs. Tes meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est qui ? C'est Marega et Pepe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Porto des grandes années. Et il y a un peu de scepticisme qui entoure cette équipe de Porto. Donc je me dis que Marseille, avec en plus André Villas-Boas, qui pour moi est le meilleur argument de Marseille, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission, mais je me dis que Marseille, ça peut passer, et je me dis même que Marseille, ça va passer. Et je pense que ce sera la saison de l'explosion totale de Camavinga en Europe. Et c'est lui qui va porter sur ses toutes petites épaules ce Stade Rennais. À côté de lui, il n'y a pas de star, c'est sûr, mais il y a une équipe hyper cohérente, super bien construite. Il y a une ligne, il y a une direction engagée par un axe Stéphan, Maurice, Solveig. Ils sont sur la même ligne. Donc tout est très cohérent, tout est très carré.
Je pourrais arrêter là, mais bon. Bon alors, cela dit, t'as pas eu tort, ça s'est passé à rien. L'OM a mis 3 points et Rennes 1. Et Porto a fait un quart de finale de C1.
Comment je pouvais savoir que Camavinga allait s'écrouler?
Je sais pas. Le flair.
Si les mecs tiennent pas leurs promesses, c'est pas de ma faute.
C'est pas de ta faute. Bon là, en revanche, c'était quand même le tour de chauffe et pourtant on est déjà très haut. C'est le premier tour. Alors Martin, il est monté en puissance au fil de la compétition. PSG-Bayern en quart de finale. Voici son prono.
Je ne vois pas de points faibles à ce Bayern Munich. J'en vois énormément du côté du Paris Saint-Germain et pas seulement à cause de la défaite de Nantes. Un Paris Saint-Germain qui se repose beaucoup sur Mbappé et Neymar, c'est pas nouveau, mais qui ne dégage pas cette force collective qu'il aura en face de lui. Et enfin, et pour couronner le tout, s'il n'y avait que ça, mais il y a en plus cette finale, donc il y a eu une opposition il n'y a pas si longtemps entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, ça n'a pas globalement changé depuis, et ben on est sur un Bayern qui a battu le PSG. Alors il y a eu des ouvertures, on pense à cette action de Mbappé, on pense à Neuer qui a été énorme, enfin bon, un très grand gardien, ça compte aussi. Oui. Aujourd'hui, je ne vois pas d'angle d'attaque pour ce Paris Saint-Germain face à ce qui se fait mieux au monde et ce qui se fait mieux quasiment au 21e siècle. Donc, ça va être très, très dur pour le Paris Saint-Germain.
Vous noterez l'intonation de voix au 21e siècle.
Là, tu étais d'accord avec moi, Maxime, hein, si on est tout à fait honnête. Hein.
Bon, Martin.
Mais il faut être honnête.
C'est des choses qui arrivent. J'ai connu ça la semaine dernière. Hein. Mais bon, après, la Ligue des Champions, tu es au-dessus, toi. L'important, c'est l'euro. Toi, ce qui compte, c'est le mois de juin, c'est les grandes compétitions. Au mois de juin, on a eu France-Portugal, Jules Koundé, arrière-droit face au Portugal. Là, attention, danger, ça fleure le bon coup de Dédé. Même si Pavard, à terme, il risque rien du tout.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait une Pavard, une Hernandez, c'est-à-dire qu'il arrive dans un grand tournoi avec très très peu de certitude internationale, ou une Umtiti. Ça s'est toujours bien passé.
Ouais.
On va voir demain avec Koundé. S'il y a grosse prestation de Koundé, est-ce qu'il peut y avoir pression sur Pavard? Moi, je ne suis pas certain parce que Pavard, c'est plus de 30 sélections, c'est un titre de champion du monde, il joue au Bayern Munich.
Bon.
Le fait est que Koundé n'est pas au-dessus de Pavard aujourd'hui dans la hiérarchie des défenses, des latéraux droits de l'équipe de France.
Oui, mais parce que le système a changé quand même.
Bah voilà, bah oui, mais c'est comme ça, oui. C'est tout.
Bon, allez, là j'ai terminé. Mais le dernier, pour la fine bouche, j'ai envie de parler de Lewandowski et du Ballon d'Or.
Mais elle a sûrement aussi dans ses rangs le meilleur attaquant du monde, aussi. Il ne faut pas l'oublier, oui, Robert Lewandowski, qui devrait être Ballon d'Or, qui avait été récompensé par la rédaction d'Eurosport.
Et peut-être
d'ailleurs.
Le meilleur joueur du monde aujourd'hui.
Et peut-être le meilleur joueur du monde, exactement, voilà.
Voilà. Ça fait plaisir. Tu vois, comme quoi, on est d'accord à l'arrivée.
Alors, là, c'est de la malhonnêteté, par contre. C'est de la manipulation, de la malhonnêteté intellectuelle, Maxime. Parce que j'ai toujours dit, et ça, tu ne me l'enlèveras pas, que Messi serait Ballon d'Or en 2021.
Alors, sache que je suis quand même quelqu'un de très magnanime. J'avais d'autres extraits que j'ai gardés, dont un qui disait que Neymar était un favori pour Ballon d'Or.
Ouais, mais c'était au mois de janvier.
Non, c'était un peu plus tard dans l'année, quand même.
Non, mais.
Je l'ai gardé, je l'ai gardé.
T'es en train de me faire passer pour la truffe du siècle.
Non, ah non, pas moi. Non, parce que comme je l'ai dit, et c'est vrai, alors, on travaille de nuit pendant les JO, il a fallu. Je prends beaucoup de temps en voiture pour venir, et je me suis fadé en pleine nuit, vous voyez la vie de merde, les émissions, les vieilles émissions, pour retrouver des extraits, parce que tu m'avais mis ça la semaine dernière, donc merci. Enfin, cela dit, ça m'a occupé, ça m'a permis de rester éveillé au volant, donc tu m'as peut-être sauvé la vie, mine de rien. Voilà.
Bah au moins si ça servait à ça, j'en suis heureux. Et c'est pas fini parce qu'aujourd'hui on va vous donner nos pronos des huitièmes de finale avec des champions. Ouais. Donc si vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui vient de se passer devant vous, bah vous comprendrez qu'il va se passer absolument l'exact inverse de ce qu'on va pronostiquer.
Oui, mais vu que j'ai réécouté les émissions, je me suis retombé sur nos pronos de l'année dernière, le tableau final, les quarts, et on était pas mal. Bon, à part PSG Bayern évidemment.
On va voir cette semaine. C'est quoi le programme, Maxime, pour cette semaine?
Eh bien, cette semaine, c'est le grand retour de la Ligue des Champions avec d'entrée le duel entre le PSG et le Real Madrid. Donc, c'est le dessert en entrée. Pour ce dessert en entrée, ce qui tout double pour le Paris Saint-Germain, ben, on aurait bien aimé voir Messi, Neymar, Mbappé. Mais il se trouve que Neymar, il y a peu de chances de le voir puisqu'il est blessé depuis le 28 novembre mais n'a toujours pas rejoué. Donc, la question est la suivante, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle que Neymar ne soit pas sur le terrain mardi? On en débattra avec Martin dans la première partie de l'émission.
Deuxième partie de l'émission, donc ce seront nos pronos sur les 8 huitièmes de finale. Qui franchira l'écueil? Qui se qualifiera pour les quarts entre le Sporting et City, entre Chelsea et Lille, entre Villarreal ou la Juve? On vous fera tous les matchs et on vous donnera nos pronostics. Et on terminera, Maxime, avec deux coachs qui ont vécu une sale semaine, Sampaoli et Bose.
Ouais, des coachs qu'on a parfois du mal à suivre, et surtout à Lyon, puisque le début de saison est quand même pas terrible. Et Sampaoli qui a des fois des petites rechutes. Et on va se poser la question, mais enfin, à quoi joue-t-il avec ces changements de composition, ce fait de changer constamment de système? Et on voit que ça leur pèse, et le paradoxe, c'est que ça leur est arrivé tous les deux dans la même semaine quasiment, puisque Lyon a perdu à Monaco avec une équipe un peu bizarre, et Marseille s'est incliné à Nice en Coupe de France assez lourdement, avec une composition là aussi assez baroque. Donc on va se demander tout simplement si Bose et Sampaoli se triturent pas un peu trop les méninges quand ils font leur composition d'équipe tous les week-ends.
On rappelle que ce podcast est à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, oui, et que vous pouvez retrouver les extraits vidéo de nos tronches enfarinées et marquées par le décalage horaire avec Pékin sur eurosport.fr. On démarre, Maxime ?
Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut suivre les Jeux Olympiques de Pékin sur Eurosport 24h sur 24 avec les meilleures plumes de la rédaction et les meilleures de la rédaction tout court.
Il n'y a pas que les meilleurs primes, il y a toi aussi, je crois, qui écrit sur le site, Maxime.
Bon, allez, on y va.
Mardi, huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Neymar a repris l'entraînement collectif, mais Neymar ne sera pas du match face à Rennes ce vendredi, car ce podcast a été enregistré vendredi après-midi. Est-ce que Neymar peut démarrer face au Real Madrid? C'est à peu près assuré que non. Est-ce qu'il sera sur le banc? Sans doute. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain de débuter ce huitième de finale face au Real Madrid sans son attaquant brésilien? Telle est la question, Maxime.
Bah, la réponse elle est simple, non, c'est pas une mauvaise nouvelle à l'instant T. C'est-à-dire que Neymar, comme tu l'as dit, il s'est blessé le 28 novembre dernier à Saint-Étienne. Il n'a toujours pas rejoué, une assez longue convalescence, c'est-à-dire qu'il était plus longue que prévu, parce qu'on imaginait qu'il reviendrait à peu près à 2-3 semaines du match face au Real. 2-3 semaines du match face au Real, ça laissait quand même le temps de se remettre d'aplomb et surtout de retrouver le rythme. PSG-Rennes, dernière répétition, pas de Neymar, et PSG-Real, mardi. Faire jouer un joueur sur un huitième de Ligue des Champions, aller avec ce qu'il y a derrière, une forme de fragilité, parce qu'il faut le dire, il est souvent blessé, et bah, il y a un risque que le PSG ne doit pas prendre et que Pochettino ne prendra sûrement pas, ça n'a pas de sens. Le tester à l'entraînement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et le faire démarrer contre le Real, ce serait quand même une hérésie au niveau du rythme, voire même, j'ai envie de dire, de le faire jouer, tout court. Pourquoi ? Parce que j'ose imaginer que le PSG ne sera pas dans une situation désespérée au bout de 45-60 minutes. Cette année, le but à l'extérieur a disparu, donc même une défaite, j'ai envie de dire 1-0, une situation un peu déséquilibrée à la fin de l'aller, ne serait pas aussi compliquée qu'elle aurait pu être à rattraper. Et au-delà de ça, si le PSG était vraiment largué mardi dans les conditions d'un match aller face au Real, c'est que le problème serait ailleurs. Et je ne prendrais vraiment pas le risque de sortir Neymar de la boîte. Maintenant, j'ai envie de dire que même un Neymar, vous les écoutez suffisamment l'émission pour le savoir, même un Neymar au niveau où il était en début de saison, je ne suis pas certain que ce soit dans l'intérêt du PSG de jouer avec lui et tout simplement avec les trois de devant. Vous l'avez vu, c'est très caricatural sur les matchs, notamment de Ligue des Champions. C'est une équipe qui est complètement coupée en deux, qui ne fait pas les efforts. Et quand vous avez trois joueurs qui ne font pas les efforts, bah une équipe n'est pas viable, elle ne peut pas être viable contre une équipe du standard du Real Madrid ou quand le niveau augmente en Ligue des Champions. Une équipe ne peut pas défendre à 7 tout simplement. On peut avoir un joueur qui ne court pas, voire un et demi, mais si trois joueurs ne font pas les efforts, c'est trop compliqué, ça déséquilibre beaucoup trop. Le Paris Saint-Germain qui a déjà eu des problèmes comme ça de déséquilibre par le passé, à l'époque c'était avec les 4 de devant on disait. Parce que justement, le milieu de terrain n'était pas assez costaud, n'était pas assez protecteur de la défense. Bah là, c'est que trois attaquants, mais n'empêche que ces trois attaquants qui n'en font pas assez sur le replacement, ça met tout en péril. Alors, j'ai pas de solution miracle pour ce PSG, en effet. Mais ça, moi, je suis pas entraîneur du PSG. Il fallait y penser avant. Mais en tout cas, moi, je pense que jouer juste à deux et Messi, Mbappé sur papier en plus, c'est pas trop mal.
Alors, je suis absolument pas d'accord avec toi. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain de jouer sans Neymar ? Moi, la réponse me semble évidente. Bah. C'est oui. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Je t'ai laissé parler un quart d'heure. Je pense, Maxime, que tu peux me laisser parler 25 secondes et demie. Pour deux raisons. D'abord, parce que je ne vois aucun remplaçant qui arrive au petit orteil de Neymar. C'est-à-dire qu'on a trois solutions possibles. Mauro Icardi, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est un fantôme depuis des semaines et des semaines. C'est un poids mort complètement pour l'attaque parisienne. Dieu sait qu'il joue beaucoup et Dieu sait qu'il ne sert à rien. Ensuite, on a Draxler, qui lui aussi, globalement, ne sert absolument à rien. 17 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, là. Il prend son gros salaire, mais on ne peut pas dire qu'il serve à grand-chose. Et enfin, on aurait pu dire qu'effectivement, André Di Maria, lui, il avait franchement la gueule de l'emploi, mais il est dans peut-être sa saison la plus difficile avec le Paris Saint-Germain. Alors, je rappelle que ce podcast a été enregistré avant le match de Rennes, donc peut-être que le match de Rennes va me faire mentir. Mais toujours est-il que l'Argentin n'est vraiment, vraiment, vraiment pas dans son assiette. Il n'a pas la même mainmise sur le jeu que ce qu'il avait avant, et même ne serait-ce que la saison dernière. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune solution viable, je ne vois pas pourquoi le PSG s'en sortirait mieux avec Neymar. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus aussi, il faut se souvenir de Neymar face au Bayern de la saison dernière. Ce n'était pas il y a 10 ans, ce n'était pas il y a 5 ans, ce n'était pas il y a 3 ans, c'était il y a moins d'un an. Ça a été le meilleur joueur sur l'aller-retour, sur la confrontation générale. C'est le meilleur parisien. On peut me dire tout et n'importe quoi. Il a peut-être perdu un peu de son coup de rein. Il est peut-être à court de forme. Et peut-être que dans la tête, ça va un peu moins bien. Mais j'ai encore, moi, du mal à entendre que le PSG est plus fort sans Neymar. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'entendre. Surtout dans cette configuration, c'est-à-dire que là, on ne joue pas à 3. Surtout dans cette configuration, dans un grand match, face au Real, et face à un Real qui n'aime pas qu'on lui oppose de la vitesse et du jeu de transition. Pour moi, Neymar, face à ce Real-là, il est essentiel.
Oui, mais le Neymar dont tu parles, tu as raison, le Neymar dans tes souvenirs, mais il est où le coup de rein de Neymar? Tu as vu comme il traînait sa peine en début de saison sans être blessé? Enfin, c'est aussi ça le problème. C'est qu'on peut. Tu sais, Michel Platini, on peut toujours le faire rentrer sur le terrain pour tirer les coups francs. Hein.
Non. Mais... C'est à peine exagéré déjà.
Non. Ah non, c'est pas mon genre.
Non, c'est pas ton genre.
Non, mais ce que je veux dire.
J'ai déjà vu Neymar blessé longtemps et revenir. Oui. Souvenez-vous du Big Four. Big Four, il a été exceptionnel. Contre le Bayern, la campagne dernière, il a été exceptionnel. Si, il a été exceptionnel. Contre
le Big Four, on peut en parler. Ouais. Ah, au match retour, il n'est pas exceptionnel.
Ah, il est très bon, Maxime. Et sur l'aller et le retour, pour moi, c'est le meilleur parisien. Sur la double confrontation avec le Bayern Munich. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas d'un joueur qui a 35 ans, qui est terminé, qui s'est fait les deux genoux.
On parle d'un joueur qui a quand même un peu. Qui donne parfois l'impression de gentiment lâcher la rampe, quand même. C'est ça le problème. C'est-à-dire que
Un peu tôt pour le dire. Ça me paraît beaucoup trop tôt pour le dire, même.
Bah écoute, en tout cas, vaut mieux que ce soit trop tôt que trop tard, pour le coup.
Moi, je pense. Et quand. Je n'ai pas encore la conviction en moi que le Paris Saint-Germain est meilleur sans Neymar. Et je ne suis pas prêt de l'avoir. Parce que, de toute façon, ces joueurs-là, on les juge sur ces matchs-là. On ne les juge pas sur... Et on peut le regretter, on peut évidemment le regretter. Mais Messi, Neymar, même Mbappé, on ne les juge pas sur les 6 mois qu'il y a eu là en Ligue 1, malheureusement.
Non, mais...
Ils nous ont montré, et surtout Neymar nous a montré qu'il pouvait être absent des mois et des mois, revenir, sentir l'odeur des grands matchs, et se rappeler et nous rappeler quel joueur il était et quel joueur il reste.
Mais tu vois, tu parles, t'as parlé imparfait. Et quand à dire qu'il n'y a rien sur le banc ou qu'il n'y a pas d'autre solution, bah là, je suis désolé, mais on va devoir déplacer le curseur vers le banc et vers Pochettino. Je veux dire, ça fait 2 mois qu'il est blessé, Neymar. À un moment, il se doute et qu'il y a cette possibilité-là que Neymar ne soit pas prêt pour le Real Madrid. Il est au quotidien avec le joueur, ils savent ce que vont dire le staff technique, le staff médical. À un moment, il faut aussi penser à la suite. Et pourquoi être bloqué dans ce système à 3 devant? Il y a peut-être autre chose à penser, mais encore, eût-il fallu essayer autre chose? Et c'est là qu'il y a le problème, parce qu'à un moment, on est obligé d'avoir un plan B. Parce que Neymar serait encore le meilleur joueur du monde, si tant est qu'il ait été un jour ou au moins dans les 3 meilleurs. Bah, un joueur, ça se blesse. On l'a vu avec Neymar tout au long de sa carrière parisienne. Et à un moment, il faut aussi réfléchir à des plans B. On ne souhaite évidemment pas ça à Mbappé. Imaginez qu'il se blesse, je sais pas, une entorse à la cheville, quelque chose comme ça. Comment fait Pochettino? Il faut des plans B à un moment. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il ne le cherche pas vraiment. Tu l'as dit, Drexler, voilà. Il se fixe sur son équipe type. Il espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Et quand on parle de lâcher la rampe un petit peu, lui aussi, parfois, on a l'impression qu'il l'a un petit peu lâché avant la fin de saison et même loin de la ligne d'arrivée, ce qui est problématique pour le Paris Saint-Germain.
Le problème du plan B de Pochettino, c'est qu'on a quand même eu l'impression que le plan B s'appelait Mauro Icardi. Il l'a beaucoup fait jouer, hein, beaucoup fait jouer en 2022, notamment en Ligue 1, énormément, beaucoup titularisé. Mais c'était de pire en pire. C'est-à-dire, je crois que sur son dernier match, il touche 6 ballons.
6 ballons, ça c'est exceptionnel.
6 ballons, Mauro Icardi. Donc, si c'était ça le plan B, force est de constater, et là, Mauro Pochettino, il est comme nous, il voit les matchs. Hein, c'est indéfendable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est inimaginable de voir le Paris Saint-Germain démarrer une rencontre avec un joueur qui ne met plus un pied devant l'autre, un joueur qui n'a plus la tête à Paris, un joueur qui est en déficit criant de confiance. Donc, comment on fait? Et comment on peut dire que le Paris Saint-Germain, pour en revenir au débat de départ, est meilleur sans Neymar, avec cet Icardi, avec ce Draxler ou avec ce Di Maria? Alors oui, Pochettino a sans doute sa part de responsabilité. Peut-être qu'il fallait essayer autre chose. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on en est là, que le match, c'est mardi. Nous enregistrons ce podcast vendredi. Et que moi, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens.
L'histoire regorge d'exemples d'équipes qui sont meilleures avec une star ou deux de moins, simplement. Parce qu'un empilement de joueurs, ça ne fait pas une
grande équipe. On ne l'a pas vu avec ce PSG, par exemple.
Mais regarde ce qui se passe en équipe de France avec le trio de devant. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis la fin de l'année? C'est que le trio, en fait, c'est un duo. C'est Mbappé, Benzema, avec Griezmann en soutien ou Griezmann en support, parce que Griezmann fait très bien ça. Bah, le PSG gagnerait peut-être à réfléchir à une manière de fonctionner comme ça. Mbappé, on l'a vu à Lille, Mbappé, Messi... Ouais, je pense qu'il y a 99% des équipes du monde qui se satisferaient de ça. Si tu rajoutes un demi-Neymar Parce que c'est Neymar, bah c'est un problème, voilà. Et c'est juste se dire, parce que Neymar, c'est Neymar, parce que Neymar, il a fait ça, parce que Neymar, il a fait ci. Ce que je vois, c'est aujourd'hui ce qu'il fait et ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il n'a pas marqué en Ligue des Champions, il a mis 3 buts en championnat. Enfin, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et le tort, pour moi, de Pochettino, c'est de ne pas avoir sûrement devancé la possibilité et essayé autre chose. Voilà, juste remettre les joueurs dans les mêmes cases habituellement. On va parler plus tard d'entraîneurs qui changent trop souvent leur composition et qui remue les méninges un peu trop, peut-être que lui, finalement, il ne le fait pas assez.
Allez, on va rester en Ligue des Champions avec une petite séquence qu'on aime bien faire, même si on n'a pas toujours juste avec Maxime, à un moment, il faut être honnête. On n'a pas toujours juste, mais on aime bien faire les pronostics des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On va vous donner nos pronos pour chacun des 8 matchs à venir. Ça démarrera mardi. Maxime, on va démarrer par Bayern de Munich-Salzbourg.
Alors, Bayern de Munich-Salzbourg, attention à la nouvelle règle des buts à l'extérieur, elle n'existe plus. Et vous savez quoi pour ce match ? Ça ne va rien changer. Le Bayern, a priori, dans un fauteuil. Je vois quand même mal le Bayern se prendre les pieds dans le tapis face à Salzbourg. Neuer n'est pas là. Mais bon, a priori, ce n'est pas maintenant que ça posera problème. Donc là, pour le coup, Martin, moi, le Bayern, sans hésitation aucune.
Pareil, il y a eu la défaite contre Mönchengladbach, mais je ne pense pas que ça ait cassé quoi que ce soit du côté du Bayern Munich. Salzbourg est sorti d'un groupe quand même très ouvert avec Lille, Séville et Wolfsburg. Donc, il n'y a pas non plus, ce n'est pas une équipe qui a réalisé des exploits monumentaux en phase de poule. C'est trop petit, Salzbourg, pour faire dérailler le Bayern. Donc Bayern, bien évidemment.
Sporting, Manchester City.
Pour moi, c'est un peu le même. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, il y a trop de certitudes du côté de City. C'est l'un des huitièmes les plus déséquilibrés avec celui dont on vient de parler juste avant. Un club qui a tellement d'avance en championnat, une saison incroyable. City, pour moi, c'est mon favori avec le Bayern. Le Sporting, qui en plus a perdu deux de ses 5 derniers matchs de championnat. Et même s'il restait sur 18 matchs sans défaite au Portugal, c'est trop compliqué, City, pour le Sporting.
Ouais, pareil, c'est trop déséquilibré. City, qui est finalisé à la Ligue des Champions, qui se rapproche toujours un peu plus du sommet d'un premier titre convoité pour la bande de Guardiola.
Ça finira par arriver. Hein.
Ça finira, voilà. Je pense que là, ça finira par arriver, peut-être même cette année. Donc là, pour le coup, City, sans trop d'hésitation de mon côté. Benfica-Ajax, un peu un match de grands historiques, parce que c'est un match qui pèse 6 victoires en Ligue des Champions, mais quand même d'anciens grands et de surprenants.
Pour moi, l'Ajax, elle est intouchable par le Benfica, en tout cas. Je crois qu'il n'y a que Liverpool qui a fait un tour préliminaire aussi fantastique que celui de l'Ajax, avec un Haller qui était incroyable. Alors oui, le groupe était moyen, mais Benfica reste de toute façon, même s'il n'y avait pas eu ce tour préliminaire absolument immaculé de l'Ajax, un adversaire à la taille des Néerlandais. Alors oui, les Portugais, ils ont sorti le FC Barcelone, mais bon, sortir le Barça, ce n'est plus un exploit. Ils s'en sont pris 9 face au Bayern sur 2 matchs. Et aujourd'hui, l'Ajax me semble plus proche du Bayern que du FC Barcelone, donc je vois l'Ajax.
Oui, pareil, je pense que l'Ajax… Alors, je ne suis pas certain que l'Ajax nous fera une saison à la mode 2019, et je pense pareil que l'Ajax, ça passe assez simplement. Chelsea-Lille, premier club français engagé. Lille qui a réussi une formidable fin de parcours au premier tour. Lille qui était très mal embarqué. Lille dont on se moquait, il faut le dire. Parce qu'on disait, c'est encore reparti. Lille n'apprend pas, etc. Et finalement, c'est Lille qui a l'avantage dans cette double confrontation. Puisque Lille recevra au match retour Chelsea. Pour autant, Chelsea champion d'Europe en titre. C'est peut-être pas l'immense Chelsea, mais c'est une équipe qui, on va dire, qui de toute façon n'impressionne entre guillemets jamais vraiment. C'est pas une équipe qui va vous impressionner, mais c'est une machine qui joue actuellement le mondial des clubs. Alors, peut-être que Lille PSG c'était particulier, mais n'empêche que Lille s'est retrouvé dans une situation Ligue des Champions avant de jouer Chelsea, même si c'est le 22 et que c'est pas tout de suite. J'ai peur que la marche soit quand même très haute pour les Lillois face à Chelsea. J'espère qu'il y aura encore quelque chose à jouer vraiment avant le retour et qu'on aura vraiment un retour très sympa à Pierre Mauroy, mais je pense que Chelsea devrait passer.
Chelsea marque un peu le pas en Première Ligue. Il laisse beaucoup de points de côté, beaucoup de matchs nuls, mais moi, Lille m'a beaucoup inquiété sur ce mois de janvier. Alors, il y a eu le match en Coupe contre Lens où ils ont un peu déconnecté. Après, tu l'as dit, contre le PSG, ils ont coulé. À la limite, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Quand je vois le match à Brest, en revanche, où ils n'ont pas existé, je me dis
carrière, sortir Chelsea, c'est même plus de l'exploit. Là. Il faudrait qu'il y ait, que l'équipe soit complètement transfigurée. Je rappelle qu'ils ont perdu. En plus, ils connaissent, hein, par rapport au match de poule. Ils connaissent qui avait été excellent à l'automne en Ligue des Champions. Il y a du talent à Lille. On peut prendre l'exemple de Jonathan David. Mais face à des Londoniens qui sont beaucoup mieux armés, je pense qu'il n'y aura pas match, malheureusement. Et effectivement, moi aussi, je vois Chelsea.
Atlético Madrid, Manchester United.
Alors, j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer ce Manchester United en quart de finale de Ligue des Champions.
Ouais, un peu pareil.
Ah, c'est un Manchester qui a trop de défauts, qui est sixième de Première Ligue. Le vrai problème pour moi, parce que finalement, on peut se dire, ça a marché à l'automne en Ligue des Champions. Comment ça a marché? Parce que je crois que j'ai vu tous les matchs de Manchester United en Ligue des Champions. C'était essentiellement, je vais dire uniquement non, parce que Bruno Fernandes avait fait une super phase de poule, mais ils s'en sont sortis grâce à Cristiano Ronaldo. Or, Ronaldo n'a toujours pas marqué un but, il me semble, en 2022. Il a un peu le moral dans les chaussettes, il est moins saignant, il se pose des questions, il doute de son avenir. Et avec un Ronaldo tel qu'il est aujourd'hui, Manchester, pour moi, a beaucoup moins de chances de franchir l'obstacle Atlético. Même si c'est un petit Atlético, je pense que l'Atlético passera.
En fait, c'est un des huitièmes, je dirais, les plus difficiles à prévoir, parce que finalement, c'est deux équipes qui sous-performent. Voilà.
Exactement.
Et c'est deux équipes qui cherchent des repères. On a pensé que Manchester United allait se relancer avec l'arrivée de Rangnick et le départ de Solskjaer, mais il n'en est rien. C'est une équipe qui peine et dont le malaise et le mal n'est pas que sur le banc. L'Atlético Madrid cette année, c'est aussi une équipe qui a marqué le pas. Peut-être sur la décennie Simeone, c'est peut-être celle qui marque le plus le pas. Mais j'ai toujours tendance à penser que dans ces matchs-là, les vieux réflexes de l'Atlético sont plus faciles à retrouver que ce que Manchester United va aller chercher pour essayer de passer l'obstacle. Donc je mettrai quand même un léger avantage à l'Atlético Madrid aussi. Villarreal, Juventus.
Alors pour moi, s'il y a une surprise, bon, une surprise, c'est pas non plus, parce que c'est pas là non plus la Juve d'il y a quelques années qui avait tout le temps rendez-vous pour les demi-finales, mais là, moi, je mettrais peut-être Villarreal. Je mettrais une petite pièce sur Villarreal. Moi, c'est une équipe que j'aime bien. Est-ce que ce serait d'ailleurs une surprise? Je sais pas. On se souvient de la Juve. Alors, la Juve a fait une phase de poule très correcte. Ils se sont quand même pris 4, me semble-t-il, à Stamford Bridge. Villarreal, c'est une équipe qui met de l'intensité. C'est une équipe qui manque de régularité. Pardon. Malgré tout, moi, je les vois presser et je les vois faire exploser la Juventus.
Ouais, ben moi, je pense que la Juventus va passer. J'ai l'impression que c'est une Juventus qui n'est pas flamboyante, mais qui va un peu mieux. Et ne serait-ce qu'au niveau des résultats, qui se relance. Et je pense que dans une équipe comme la Juve, avec sa culture et son jeu, améliorer les résultats, c'est faire une grande partie du chemin vers une forme de rédemption. Alors, ce ne sera sûrement pas une grande année de la Juve, mais je pense que sur sa lancée, sur ce qu'elle fait depuis, la mi-janvier, c'est-à-dire engranger des victoires ou des bons résultats, il y a eu notamment un match contre l'AC Milan, je crois, au mois de janvier, et bien, je mettrai une petite pièce quand même sur la Juventus. Je mettrai la Juventus qui passe, moi. Voilà, c'est un des matchs là à venir les plus excitants, Inter-Liverpool.
Ouais, Inter-Liverpool, c'est excitant sur le papier parce que on rappelle que l'Inter est en tête de la Serie A. Mais j'ai l'impression que Liverpool est redevenu Liverpool quand même, que depuis la défaite contre Leicester pendant les fêtes de Noël, Liverpool est super chaud, que Salah et Mané, ils ne sont pas refroidis pendant la CAN, que les Reds ont fait une phase de poule absolument gigantesque. En Ligue des Champions, puisqu'il y a eu des victoires, on est quasiment au niveau du meilleur Liverpool de club, du Liverpool qui avait été champion d'Europe. L'Inter est très bien en Serie A aussi, mais il y a eu deux défaites au Real aussi à l'automne, nul contre Donetsk. Alors oui, ils font une bonne saison, c'est un vrai choc, mais hors City ou le Bayern, je ne vois pas d'équipe qui peut taper Liverpool aujourd'hui, et même pas cet Inter Milan-là.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le seul petit doute que je peux avoir, faut toujours méfier de ça, c'est l'intermède Cannes qu'il y a eu pour Mané et Salah. Ils reviennent et il faut voir comment ils vont réussir à reconnecter, parce que les deux ont vécu quelque chose d'assez immense, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a gagné la Cannes avec son pays pour la première fois, l'autre qui a perdu en finale. Et il faut réussir à switcher. C'est un peu ce dont on va avoir le droit, en fin d'année avec la Coupe du Monde, où il faudra repartir derrière après des grosses émotions. Donc c'est presque, Il arrive presque une semaine un peu tôt, je trouve, ce huitième de finale aller pour Liverpool, mais je pense quand même que Liverpool a quand même cette petite marge face au leader du championnat d'Italie pour continuer, parce que Liverpool, là, tu as bien résumé, c'est une machine qui fonctionne, donc a priori, ça devrait, à mes yeux, passer. On passe au dernier match, évidemment, celui qui nous intéresse le plus dans un horizon proche, puisque Chelsea, Lille, c'est la semaine d'après, c'est évidemment le choc de ces huitièmes. Et les retrouvailles entre le PSG et le Real Madrid. Alors Martin, il est l'heure de se mouiller.
Si on m'avait dit demander un pronostic il y a deux semaines, j'aurais été encore plus catégorique, mais je reste quand même sur le Real. Alors oui, le Real a un peu souffert en ce début d'année, mais il y a quand même une charnière énorme. Militao à la bas qui a fait oublier Varane Ramos. Il y a les trois milieux qui sont toujours aussi intouchables. Il y a Vinicius qui désormais bonifie tout ça avec Benzema au sommet. Benzema qui, bon, alors oui, il y a un doute sur sa participation, mais selon les dernières nouvelles, il devrait pouvoir tenir sa place. Et de l'autre côté, on a une équipe qui se cherche depuis le début de saison avec un Messi moyen, un milieu hyper irrégulier, un Neymar qui n'a pas joué depuis des semaines. Paris a trop peu montré. Si ça avait été un autre adversaire, même clinquant, mais pas du standing du Real, qui quand même, depuis le début de saison, montre beaucoup de bonnes choses, j'aurais pu mettre une piécette sur le PSG. Je ne dis pas que ça va être facile pour le Real. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas souffrir face aux transitions parisiennes. Malgré tout, je reste sur le Real Madrid.
Ben moi, je vais mettre une petite piécette sur le Paris Saint-Germain. Alors, pour les raisons que j'ai un peu énumérées en première partie d'émission, là, si vous n'avez pas écouté, comme ça, vous irez écouter. Je pense que ce PSG-là, qui va certainement se retrouver sans Neymar, a des chances d'être plus équilibré, tout simplement, et de montrer autre chose. Le PSG n'a pas montré grand-chose, en effet, depuis le début de la saison, mais on a quand même eu ce petit goût de l'odeur de la Ligue des Champions qui les réveille à chaque fois. En gros, on l'a vu au premier tour, voilà, quand il y a un gros match, on l'a vu contre City, notamment à l'aller, bah, il se passe quelque chose. J'ai de très gros doutes sur le PSG pour aller au bout, parce que justement, il leur resterait 7 matchs de haut niveau. Et l'irrégularité de ce Paris Saint-Germain-là, j'ai peur qu'à un moment, elle porte préjudice au club, parce qu'à un moment, ils tomberont sur un os et ça ne passera pas. L'année dernière, ça passe contre le Barça largement. Contre le Bayern, ça se rapproche, ça ne se passe pas loin au match retour. Et évidemment, il y a la demi-finale perdue. Mais je pense que pour ce huitième de finale-là, le PSG, pour moi, peut passer, ne serait-ce que sur une espèce d'adrénaline de ce retour à la Ligue des Champions, face à un Real qui a moins de certitude, je pense, qu'on l'imagine. Donc moi, je mettrais quand même une pièce pour le Paris Saint-Germain devant le Real, mais c'est du 51-49, hein, pour le coup.
On a fait le tour, Maxime.
Je crois qu'on a fait le tour et je crois qu'on a été long malgré ce qu'on avait promis avant. C'est toujours long, ces trucs-là.
C'est toujours long, mais c'est toujours bon.
Ça, je sais pas, mais c'est
bon. On en reparlera dans voilà. Un mois et demi quand tout ça sera terminé. Allez, on va terminer cette émission avec de la Ligue 1, même s'il rêve de Ligue des Champions. Lyon et Marseille, pour l'instant, sont bien scotchés à la Ligue 1. Alors, Marseille est en position de se qualifier, hein, pour la prochaine campagne de C1, Lyon un peu moins. On va se poser des questions sur les entraîneurs de ces deux équipes, Peter Bosch et Jorge Sampaoli, deux entraîneurs qui ont vécu une semaine délicate. Il y a eu une démission collective de l'OL face à Monaco, qui a totalement remis en cause la dynamique qui commençait à poindre. Et du côté de Marseille, qui avait retrouvé un petit grain de folie face à Angers. Bon, on est bien retombé sur cette terre aussi en Coupe de France face à Nice, et une bien belle déconvenue sur la Côte d'Azur, puisqu'une défaite 4-1 en quart de finale de la Coupe de France. Maxime, je ne sais pas si tu veux commencer par parler de Bosch ou de Sampaoli, mais on a l'impression que ce sont deux entraîneurs qui se font des nœuds au cerveau,
ouais.
Qui se font des nœuds au cerveau et qui perdent un peu leur équipe, du coup.
Et c'est marrant parce que c'est deux entraîneurs qui réfléchissent beaucoup et presque trop à des moments, je pense. Deux personnes qui ne sont pas exactement pareilles. Je pense que Bosch est un côté plus intellectuel et Sampaoli plus instinctif. Mais n'empêche qu'ils réfléchissent toujours. Et moi, personnellement, j'ai une préférence pour les entraîneurs réalistes plus que les dogmatiques. Surtout les dogmatiques qui changent en cours de saison et à peu près tous les 4 matins. En cours de match. L'exemple de Bose, il est assez étonnant parce qu'il y a ce match en retard contre Marseille. Il y a une forme de petit miracle, il est gagné. Voilà. Et là, on se dit, c'est peut-être un tournant. Peut-être que ça va surfer là-dessus. Peut-être que Lyon, finalement, psychologiquement, ça va repartir. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe à Monaco ? Lyon se prend les pieds dans le tapis avec une composition quand même où on trouve Malogusto et Dubois et Henrique et Emerson. Donc en gros, on double les latéraux pour faire simple. On sait que Aulas a plus ou moins dit on avait des remplaçants avec les nouveaux joueurs que sont Fèvre et Ndombele. Après, Boss peut-être sait des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que dans son analyse, il y avait des choses qui lui semblaient évidentes contre Monaco. N'empêche que le résultat du match lui a donné tort. Et quand on a tort avec des compositions aussi baroques, vous le payez deux fois plus cher parce que là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, surtout dans la situation où est Lyon. Et là, j'ai l'impression quand même que Peter Boss, c'était dans la conf d'avant le match de Nice, donc il y a un rendez-vous quand même assez dangereux, on va dire, pour l'OL. On a vu ce que Nice a fait à l'OM mercredi en Coupe de France. Et bien, j'ai l'impression que Boss sent le vent du boulet se rapprocher avec le fameux ultimatum qui n'en est pas un de la fin février. Lyon n'est pas en position idéale pour la Ligue des Champions. Et j'ai été étonné de l'entendre dire deux phrases. Il a dit notamment, pour moi, le problème, ce sont les fautes individuelles. Alors ça, vous pouvez le faire dans une saison, mais à un moment, quand vous commencez à le faire trop, vos joueurs peuvent commencer à dire « t'es gentil, t'as vu ta compo ». À un moment, c'est peut-être toi aussi qui nous met dans la situation de faire ces fautes individuelles. Et j'étais encore plus étonné par une phrase qu'il a dite après. Ce qui m'énerve, c'est que lorsqu'on dit quelque chose, tout le monde dit la même chose. En fait, j'ai l'impression que Bose, il n'est pas en train de se tout réaliser. Mais ça fait un peu penser à ça. C'est-à-dire qu'il s'agace un peu de ne pas y arriver. Et là, il est dans une, je pense, la spirale et un cercle vicieux qui fait qu'il n'arrive pas quand il fait quelque chose d'original, mais qu'il va encore tenter parce qu'il est fait comme ça et que ça ne prend pas. La mayonnaise n'a pas pris lors des matchs allés avec une équipe qui était complètement livrée à elle-même, surtout Anthony Lopez dans les buts. Et là, à chaque fois qu'il y a un petit rebond, on se dit, il y a toujours quelque chose qui vient gâcher la suite. Et malheureusement, là, Lyon a besoin de régularité, sinon ils ne rattraperont jamais le bon wagon.
Non, mais on peut parler du petit rebond aussi. Le petit rebond, c'était un miracle. On a victoire à 3 Saint-Etienne et Marseille. C'est 3 miracles. 3 miracles. Non, 3 et Saint-Etienne, ce n'est pas des miracles, mais c'est des matchs horribles. Marseille, c'est un miracle. Ils ne s'en sortent pas un trou de souris. Je veux dire, hormis la seconde période face à Marseille, on reste quand même sur des matchs de l'OL qui sont très, très loin d'être aboutis. Et après, quand on joue contre une vraie équipe, c'est-à-dire l'AS Monaco, cette fois, il y a sanction. Et la sanction, elle est immédiate et elle est sévère. Ce qui est dur, ce qui était dur pour Boss et pour Lyon, c'était d'enclencher une dynamique, d'enclencher quelque chose de vertueux, parce qu'on savait que s'il n'y avait pas cette dynamique et ce cercle vertueux, c'était impossible d'entrevoir le podium. La dynamique, elle a duré 3 jours. Elle a duré 3 jours parce que tu l'as très bien dit, il y a eu la victoire face à l'OM. Et après, il y a eu une sanction et un rappel. Plus qu'une sanction, c'est un rappel des lacunes de l'Olympique lyonnais. Moi, je suis pas fan quand le président met son entraîneur en sursis parce que du coup, on sait qu'il est plus ou moins condamné. Encore plus quand c'est Jean-Michel Aulas qui a l'habitude de pousser derrière ses entraîneurs. Là, il l'a fragilisé en reconnaissant que Bosch est en danger. Et comment voulez-vous, pour moi, là, s'il y a une potentielle défaite face à Nice, je crois que ça mettrait quand même le podium ça mettrait Nice, en tout cas, à 11 points.
11 points.
À 11 points de l'Olympique lyonnais, alors qu'il reste 14 journées. Donc là, Lyon ne peut plus compter que sur lui-même, mais aussi sur la défaillance de Marseille et ou de Nice. Moi, je pense que c'est déjà fini. Je pense qu'il y a.
Ouais,
soit dans le contenu, dans la dynamique, dans ce que comprennent les joueurs de ce qu'il veut faire lui, je pense qu'il y a un trop gros delta, il y a un trop gros décalage. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment l'OL peut s'en sortir.
Ouais, et le symbole de ça, c'est, tu as parlé de Jean-Michel Aulas, c'est vrai, il se désolidarise assez régulièrement de l'échec. Et là, ce qu'il fait, ça ressemble quand même à une forme de désolidarisation de Peter Boss en disant, limite, il a ses joueurs, je ne comprends pas, etc. Comme tu l'as dit, le mettre en sursis et dire, non, c'est pas vraiment un sursis, on va juste faire un point. Ben non, ça ne marche pas. On comprend très bien le message. Et le mal est fait quand on commence à dire ça. Parce qu'au moindre petit accro, il prend une dimension supplémentaire qui fait qu'il ne fait que fragiliser. Et c'est vrai que c'est pour ça que les Lyonnais et Boss peuvent avoir des regrets. Parce que c'est peut-être un miracle, Marseille. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Un miracle, ça peut déboucher sur quelque chose. Au moins, psychologiquement, remettre
Et c'est là où tu vois que c'est très fragile. Parce que dans l'Olympique lyonnais, tel qu'il existe depuis des années, et justement, il se relançait sur ces matchs à l'Olympique lyonnais. Que ce soit un derby, que ce soit un match. Il y avait une étincelle et derrière, ça prenait feu. Derrière, il y avait. Parce que il y a tout passé de l'OL, parce que c'est un club qui est bien géré, parce que c'est un club qui a des joueurs de talent. Et là, il y a tout ça, mais on voit que la petite étincelle, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, elle a été éteinte automatiquement. Et c'est là où je pense que où Boss s'est terminé pour moi. Voilà.
Sampaoli, lui, c'est pas terminé, évidemment pas, puisque ce qu'il fait avec Marseille, c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi on a voulu parler de Sampaoli aussi? Parce qu'il y a ce côté expérimental qui est peut-être encore plus poussé sur des points précis sur le terrain. C'est-à-dire notamment son arrière-droit, j'allais dire son arrière-droit flexible, qui s'appelle Rongier de temps en temps, qui remonte au milieu de terrain quand ça attaque, ou Boubacar Camara, et qui redescend. Alors là, contre Nice, il n'avait pas fait de la flexibilité, mais il avait décidé de mettre Saliba à droite. Alors Saliba à droite, il a déjà joué à Saint-Etienne, il n'y a pas de problème. Mais quand on a un joueur de ce calibre-là qui joue dans l'axe et qu'on a des latéraux, alors les latéraux à Marseille, c'est peut-être un problème parce que personne n'a donné la dimension souhaitée au poste. N'empêche que autant faire confiance à des latéraux et de ne pas mettre... je ne sais pas, c'est comme si vous disiez demain, vous avez un attaquant qui marque beaucoup de buts, mais comme milieu de terrain, il y a un problème, vous faites reculer pour aider milieu de terrain. Non, ça ne va pas. Et moi, ce que je reprocherais à Sampaoli, et ce qu'on a vu notamment, c'était à Galatasaray aussi, où il s'était un peu planté, et ce qu'il fait régulièrement dans les matchs, c'est-à-dire qu'à un moment, à force de se faire des nœuds au cerveau, je pense que vous créez des problèmes dans votre effectif, parce que les joueurs... Quand vous faites un remplacement et qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'expliquer au joueur pendant deux minutes ce qu'il doit faire parce qu'il va passer ici et là, c'est un problème. C'est bien de jouer au football comme aux échecs, mais quand ça va trop loin, Prenez on pense tout de suite, quand on pense aux échecs, un mastermind du football, on pense évidemment à Guardiola. Généralement, les changements, ce n'est pas trop les ajustements pendant les matchs. Ça va être en début de saison ou une idée générale. Et quand on rentre dans la précision comme ça, à tout changer toutes les 4 minutes, pour moi, c'est problématique parce que vous prenez justement le risque de perdre vos joueurs, surtout quand vous sortez d'un match comme celui face à Angers. Alors, c'était pas parfait parce qu'au bout d'un quart d'heure, Marseille était mené 2-0 et à peu près 90% des gens, 80% des gens se disent il a fait n'importe quoi. Sauf qu'à l'arrivée, ça a marché et vous avez réenclenché quelque chose, notamment avec Milik qui joue avec Bakambu et Payet derrière. Bah, potentiellement, c'est quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait contre Nice sans Paoli? Alors, met Milik tout seul et il met, alors surtout Payet à gauche, je pense que c'est plus une bonne idée depuis 5 ans, on va dire. Et pourtant, il a essayé et tout l'édifice s'est cassé la binette. Et c'est fort dommage parce qu'encore une fois, il restait sur ce match face à Angers au moins les 70 dernières minutes qui laissaient penser qu'il y a peut-être quelque chose qui était trouvé offensivement.
Moi, j'ai un problème avec Sampaoli, c'est que ça va faire un an qu'il est là et... on a du mal quand même à dégager une équipe type, un truc qui tient la route, quelque chose, une recette. Et tu l'as dit, c'est parce qu'il expérimente beaucoup, c'est parce que on a l'impression qu'il faut qu'il démontre, qu'il travaille, ou que voilà. Moi, cet OM-là, je l'ai préféré quand il était entre guillemets minimaliste, c'est-à-dire quand il ne ressemblait pas au tempérament de son entraîneur. L'OM contre Strasbourg, l'OM contre Bordeaux, l'OM contre Nantes, l'OM contre Troyes, c'est des petits scores, c'est des petits matchs, ça engrange, ça marche, et on sent pas l'OM en danger. Et quand le match s'emballe, quand ça devient fou, on a l'impression que Marseille jette la pièce en l'air, et ça peut retomber du côté pile face à Angers, ça peut retomber du côté face à Nice. Donc on est dans une équipe qui est en insécurité. Alors que je trouve que Marseille avait trouvé son rythme de croisière. Alors, ça ne faisait pas 100% de victoire, mais malgré tout, on sentait quand même qu'il y avait une force collective, une force derrière aussi. Et surtout, là, qu'est-ce que tu vas mettre 4 centraux contre Nice? Qu'est-ce que tu vas mettre Saliba à droite? Quand tu regardes le match de Kluivert face à des centraux qui sont… il n'a pas de latéral face à lui, donc il a quand même des joueurs un peu moins toniques, des joueurs un peu plus… Il se balade. On se souvient de Galatasaray aussi, où Pape Gueye avait été milieu gauche, me semble-t-il.
Oui, milieu gauche.
Ailier gauche, si je ne dis pas de bêtises. Quand tu es City et que tu as un effectif de Martien, allez, tu peux tenter, comme Guardiola, le monteur de Sampaoli le fait, tu peux tenter des choses, etc. Mais quand tu es l'OM et que tout le monde ne se vaut pas, parce que tu es dans un effectif de Ligue 1, tu es dans un effectif aussi d'un club qui a des moyens limités et qui a une masse salariale qui est encadrée, bah, tu ne peux pas te permettre de faire ce que fait Sampaoli. Donc pour moi, ce qu'il faudrait, c'est que l'OM revienne à quelque chose de plus rationnel, quelque chose de… Parce que c'est pareil, Milik et Payet, ils ne sont jamais bons ensemble. Donc il y a aussi un problème là-dedans. C'est, soit tu te sépares de Milik et tu as un Payet qui est extraordinaire, soit tu mets Milik et tu as un Payet qui est un peu moins bon. À un moment, il faut trancher et il faut avancer avec la structure la plus adaptée aux objectifs de l'OM.
Après, moi, j'aimerais avoir Milik, Bakambu et Payet, voilà. Tout simplement, essayer un peu plus. Et après, pour ce qui est de Guardiola, ce que tu disais, la limite aussi, je trouve, c'est l'adaptation permanente à l'adversaire, simplement. Alors, on fait l'exemple Guardiola, évidemment, quand on a les joueurs de Manchester City, quand on a cette logique-là, on n'a pas toujours obligation de s'adapter. Et paradoxalement, c'est quand il veut faire des coups, des fois qu'il se plante, notamment la finale de la Ligue des Champions. L'idée, c'est d'imposer. Je pense que Marseille, dans le calibrage de la Ligue 1, est quand même une équipe qui peut imposer son jeu à 80% de ses adversaires. Ce qui n'empêche pas de faire un coup de temps en temps. Mais encore une fois, je reviens avec cette histoire de défense de Nice. Si vous mettez votre meilleur central côté droit, vous fragilisez tout l'édifice.
Ouais,
vous fragilisez la défense centrale et vous fragilisez le côté droit puisque ce n'est pas son poste. Donc j'avoue que je ne comprends pas bien l'idée. Autant revenir à un système un peu celui qui marchait bien, cet arrière-droit à la Rongier, à Boubacar Camara qui vient défendre de temps en temps, qui vient aider. Au moins, c'est pas parfait, c'est une innovation, mais quand ça marche, autant accrocher et pas toujours se dire qu'il faut absolument avoir un coup d'avance sur l'adversaire et toujours innover parce que des fois, votre plus grande force, c'est d'imposer justement les vôtres et de pas chercher le petit détail chez l'adversaire qui vous permettrait de passer par un trou de souris.
On rappelle que l'OM jouera à Metz dimanche, que Lyon recevra Nice samedi et on observera avec attention les prestations des équipes et je pense que je reviens sur Lyon, mais que si ça se passait mal contre Nice, je donne pas cher de. C'est peut-être la dernière fois qu'on parle de Peter Bosch dans cette émission. C'est tout bon, Maxime ?
C'est tout bon.
Tu peux aller retourner sur le squeletton ?
Je peux aller retourner sur le squeletton. Je vais peut-être même aller me coucher.
Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, effectivement, que tu nous claques pas entre les doigts en plein Olympiade. On a besoin de toi, quand même, Maxime. En plein Jeux Olympiques.
Encore 10 jours.
On a besoin de toi. Ouais, on a besoin de toi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie Seb et Romain à la réalisation et au visuel. On remercie évidemment Maxime Dupuis qui a dit beaucoup de bêtises, notamment dans l'introduction de cette émission, et qui est quand même un membre essentiel de cette émission.
Donc, si vous écoutez l'intro, c'est pas moi qui dis les bêtises. Hein.
C'est de la manipulation de masse. C'est de la manipulation de masse, Maxime.
Mais c'est toi qui as ouvert la porte à ça, c'est ça qui était.
Oui, je sais bien. Mais je vois que ton ego a été touché. Quand l'ego de Maxime est touché, c'est que j'ai visé juste.
T'es mon mentor.
On se donne rendez-vous.
La vérité, c'est que je bosse beaucoup sur les Jeux Olympiques. J'avais pas forcément le temps d'écrire un truc. Je me suis dit, il m'a ouvert la porte. Hop, je vais lui répondre. Ça s'est réglé. On va laisser poser. Et finalement, ça m'a pris énormément de temps. C'est peut-être l'intro la plus longue de l'histoire.
Ah, mais c'est terrible de tous réécouter. Déjà, si vous êtes à bout. Émission.
Voilà, bravo, si vous êtes là, bravo, on va vous applaudir. On vient chez vous, vous apporter un verre de champagne.
Exactement. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler, je pense, du Paris Saint-Germain. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.